Avec Patrick Artus, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, directeur de la recherche économique de Natixis, co-auteur de Pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob. Denis Père, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First, vous me direz si vous avez le moral comme tous les autres. Non mais c'est très impressionnant quand même. Vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Xavier Tabou, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE. Donc voilà, Philippe Martinez considère que, d'une certaine manière, le service minimum est un frein au droit de grève. Clément Beaune veut améliorer le système actuel. Deux éléments pour vous rappeler de quoi on parle. Le service minimum est une loi qui remonte à 2007, sous Nicolas Sarkozy. Elle impose aux agents des services publics de se déclarer 48 heures avant une grève, minimum. Mais le mot service minimum a installé dans la tête de tout le monde qu'on était à peu près sûr d'avoir un minimum de train, un minimum de bus, un minimum de métro, alors que ça n'est absolument pas le cas. La loi, ensuite, permet à l'opérateur de transport, comme la SNCF, de connaître son effectif de grévistes, son effectif de non-grévistes. Et pourquoi ce terme service minimum? Car cette fois-ci, l'opérateur de transport peut annoncer à ses clients le minimum de service qu'il est capable de garantir, compte tenu du nombre de grévistes. Mais s'il y a 100% de grévistes, le service minimum, il est égal à zéro. Et donc, on a laissé croire qu'il y avait la possibilité de garantir une forme de continuité du service public avec ce texte, ce qui n'est pas le cas. Et donc, Clément Beaune, lui, considère qu'on pourrait peut-être exiger non pas 48 heures de préavis de grève de la part des agents, mais 3 jours, 4 jours. Et Emmanuel Macron avait demandé à Elisabeth Borne de mettre tout en place pour essayer d'assurer une continuité cette fois-ci des services publics en toutes circonstances. Donc là, un peu l'idée service minimum tel que les termes le laissaient penser depuis 15 ans. C'est un sujet, à votre avis, Patrick Artus, sur lequel il faut se pencher, trouver une solution ou simplement renommer un texte qui est mal nommé parce qu'il induit tout le monde en erreur?
Oui, enfin, je crains que le service minimum soit, que le droit de grève soit inscrit explicitement dans la Constitution, et donc on peut pas empêcher quelqu'un de faire grève. Donc je vois difficilement comment imposer la présence sur son lieu de travail à un gréviste.
La réquisition, ça s'appelle.
Oui,
la réquisition.
Mais c'est compliqué, c'est pas très simple. Il y a d'autres pays qui expérimentent d'autres possibilités. Je crois que la plupart des pays européens demandent que une grève ne puisse être mise en place que si elle concerne l'entreprise. Alors effectivement, sur la réforme des retraites, toutes les entreprises sont concernées, donc ça n'améliorerait pas la situation. Dans d'autres cas, il y a des grèves par solidarité qui sont interdites dans la plupart des pays. Oui. Il doit y avoir un élément qui affecte les relations sociales de l'entreprise, des salariés qui sont en grève. Je crois que c'est une piste plus pertinente que revenir sur le droit de grève, quoi.
Lorsqu'on a créé effectivement, qu'il a été inscrit dans la Constitution, l'état d'esprit en 1860 était de dire on fait grève contre son patron, pas contre la nation. C'est pas la même idée.
Oui, mais enfin bon, il y a eu des exemples de grèves qui étaient des grèves de solidarité, qui est.
Oui, mais bien sûr.
Bon, mais dans le cas d'espèce de la grève contre la réforme des retraites, tout le monde est concerné, y compris les cheminots sous le statut ancien de cheminots. Donc légitimement, je vois difficilement comment on interdit à ces personnes de faire grève.
Il ne s'agit pas de leur interdire de faire grève. Alors il y a aussi des exemples comme en Italie où il n'y a pas de grève à Pâques, il n'y a pas de grève à Noël, il n'y a pas de grève pour les grands départs en vacances d'été, il n'y a pas de grève le jour de la fête nationale. Denis Père.
Oui, le droit de manifester, il est inscrit dans la Constitution. Oui. Mais l'obligation de continuité du service public est aussi inscrite dans la Constitution.
Et comment on va l'incarner?
Et donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Et c'est toute la difficulté. Mais aujourd'hui, il y a clairement une prééminence du droit de manifester par rapport à la continuité du service public. Et il y a un peu cette notion de liberté de manifester qui s'arrête où commence la liberté de travailler, la liberté de travailler en particulier pour des artisans, des commerçants, des professions libérales qui n'ont pas de salaire qui tombe à la fin du mois et qui, quand il y a une grève des services publics, peuvent pas simplement gagner leur vie, quoi. Oui. Liberté également de l'éducation, liberté de voyager, liberté de partir en vacances aussi, de se reposer, qui est quand même extrêmement légitime aussi. Donc il y a un vrai sujet qui doit absolument être débattu, je pense, et avec effectivement des modèles qui existent. Vous l'avez cité, en Italie, en Espagne, il y a interdiction effectivement de faire grève au moment des départs en vacances, mais aussi au moment des heures de pointe. Non, des heures de pointe. Et ça, effectivement, ça sera un bon équilibre entre le droit de manifester d'un côté, mais aussi l'obligation de continuité du service public. Et ça, c'est pas suffisamment dans le débat, mais ça devrait l'être.
Ouais, alors, Xavier Tabot, votre avis là-dessus, ou alors j'avance, mais...
Mon avis là-dessus, c'est quand même que on a en souvenir le blocage des grèves de 95, et que la loi sur le service minimum, même si, comme vous l'avez dit, c'est pas tout à fait un service minimum, mais quand même, parce que ça permet à l'opérateur de transport de s'organiser.
De s'organiser, oui. Mais sans assurer qu'il y aura...
Il a la possibilité de s'organiser, en particulier, il peut aussi faire appel à des prestataires externes. Ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit. Alors, il faut qu'il soit habilité, il y a des raisons de sécurité. Mais, par exemple, les cheminots ne peuvent pas empêcher un train de circuler. Ce qui est quand même extrêmement important, parce que c'est précisément le blocage qu'on veut interdire, sans interdire pour autant le droit de grève. Mais on laisse à l'opérateur la possibilité de proposer des solutions alternatives. Donc, il n'y a pas un engagement de service minimum, mais il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour pouvoir atteindre un certain service minimum. Et si on fait un bilan de cette loi sur le service minimum, elle a quand même été plutôt efficace. C'est-à-dire
en termes d'information des voyageurs, on sait si son train va rouler
Mais même en termes de jours de blocage,
c'est vrai.
On n'a pas revécu la période de 95 où pendant plusieurs semaines, il y avait blocage effectif des transports en commun, de la SNCF. Et donc, il y a eu des grèves, il y a eu des blocages, il y a eu des trains qui ne sont pas partis. On a en mémoire, il n'y a pas très longtemps, la grève des contrôleurs au mois de décembre de l'année dernière. Qui a eu un impact, et donc qui a bloqué des gens, qui a bloqué des trains. Mais je pense que globalement, la loi sur le service minimum a quand même un peu adouci le risque d'un blocage complet. Alors, c'est le problème de savoir est-ce qu'on est satisfait de cet équilibre ou est-ce qu'on veut aller un cran plus loin en termes de résultats, c'est-à-dire en termes d'éviter que des trains soient bloqués ou que... Voilà, alors, pour le moment, on est engagé, et c'est là aussi où c'est un peu délicat, parce qu'on est engagé dans cette question de la réforme des retraites. Pour le moment, il n'y a pas de blocage des transports en commun. Il y a eu une journée...
Pour l'instant, il y a eu une journée.
Et quand on parle de durcir le service minimum, de mettre plus de contraintes, on prend le risque de déclencher un blocage au moment où on en parle, au moment où on parle de la réforme des retraites. C'est-à-dire, pour bien faire une loi sur le service minimum et les aménagements, il faut le faire dans un contexte où il n'y a pas de...
Mais c'est pour ça qu'il n'y aura pas de loi. Il n'y aura pas de loi.
Très honnêtement, c'est pas le moment d'en parler.
Mais non,
il n'y
aura pas de loi.
C'est juste mettre de l'huile sur le feu. Ouais.
Pour l'heure, le sujet a été réveillé hier sur France Info par Clément Beaune et par Philippe Martinez lui-même.
Tout ça, pas très malin.
Comme disait Denis Père, le droit à la mobilité est aussi dans la Constitution. Au même titre que le droit de manifester et de faire grève.
Oui, mais il y a la Constitution. Il y a aussi une histoire des mouvements ouvriers. La grève générale à Londres en 1841. Je ne suis pas sûr de la date. Mais la grève générale est quand même le moment fondateur du mouvement ouvrier. Et la grève est vraiment l'outil, l'instrument, le moyen pour la classe populaire d'avoir un pouvoir. Donc après, on peut dire, oui, il y a les artisans, les gens qui partent en vacances, qui ont des droits. Mais l'idée, c'est que il y a des hiérarchies qui se créent à des moments et que, de ce point de vue-là, le mouvement ouvrier a quand même...
Il y a un tweet qui m'a bien fait rire, enfin, qui a beaucoup, beaucoup tourné, d'un élu MoDem qui dit un expert comptable à la SNCF part à 58 ans et un expert comptable dans le privé partira à 64 ans. Ils font le même métier, même
pénibilité. Ça, c'est la SNCF, oui.
Oui, mais dit-il, devinez qui fait grève.
Les experts comptables, quand ils font grève à la SNCF, honnêtement, je ne pense pas que ça ait jamais empêché un train de partir.
Non, mais bon.
Il y a la clause du grand-père qui a été
révélée. Je pense qu'il y a des experts comptables de la SNCF qui peuvent être habilités à faire circuler des trains. Et quand ils ne sont pas grévistes, ils peuvent être mobilisés par la SNCF.
On l'a vu à la RATP. Il y a des cadres de la RATP qui avaient pris
la. Exactement. Je serais moins critique sur la grève comptable de la SNCF.
C'était un peu de l'ironie dans ce tweet, évidemment. Denis Père,
Il ne s'agit pas d'interdire le droit de grève. Hein. Il s'agit juste de trouver un équilibre entre, effectivement, cette obligation constitutionnelle d'assurer la continuité du service public et le droit de grève. Donc, je ne préconise pas du tout d'interdire le droit de grève et d'interdire, effectivement, la possibilité de revendiquer aux syndicats en particulier. Mais dans certains pays, on n'a pas tellement parlé de l'Europe du Nord, si Patrick Artus un tout petit peu, mais en Allemagne, par exemple, les fonctionnaires au statut et en Autriche n'ont juste pas le droit de grève. Pas le droit de grève.
C'est le cas des militaires.
C'est le cas des militaires. On n'a pas le droit non plus de grève à EDF. En tout cas, on n'a pas le droit de bloquer les centrales nucléaires. Parce que bloquer une centrale nucléaire, ce serait catastrophique. Bloquer une économie, c'est catastrophique. Surtout une économie qui, finalement, ne va pas si bien que ça, qui est écrasée d'impôts, de prélèvements, de dettes. Bloquer l'économie, comme ça a été fait, effectivement, parce qu'il y a quand même eu un jour de grève où il n'y a pas eu de train, véritablement, en tout cas, très très peu de train. C'est juste quelque chose qui est inacceptable aussi. Donc, je crois qu'il faut arrêter effectivement de glorifier le mouvement ouvrier qui a tous les droits, qui peut tout faire. Non, il peut pas tout faire. Bien sûr qu'il a des droits, mais ces droits doivent être parfaitement encadrés parce qu'il y a des gens qui souffrent quand ils font grève. C'est tout.
Bon, en attendant, il va falloir trouver une sortie, Patrick Artus, parce que bon là, on a des sujets de crispation très durs, notamment un qui a quand même poussé l'UDP et la CPME à s'exprimer hier, les deux syndicats patronaux pour les artisans et les PME, parce qu'on a bien constaté qu'il y avait une faille à un endroit de la pyramide des âges des travailleurs. C'est autant il y a des mesures de départ anticipé avant 16 ans jusqu'à 19 ans, mais à 20 ans, c'est la double peine. On travaille 64 ans, donc on cotise 44 ans. Et il faut attendre 21 ans pour ne cotiser que 43 ans. Et là, les deux syndicats patronaux disent il n'est pas imaginable qu'un travailleur, au terme de cette réforme, puisse devoir cotiser 44 ans. C'est un sujet, mais plus largement, Patrick Artus, il faut sortir de l'histoire, là. Tout est en train de s'enliser. La majorité parlementaire part en vrille. Il y a plein aujourd'hui d'élus Renaissance qui laissent entendre qu'ils ne voteront pas le texte en l'état. Je ne sais pas où est le grain à moudre, je ne sais pas ce qu'on peut lâcher.
Il y a quelques semaines, on pouvait lâcher la fameuse clause de revoyure.
Et on peut plus.
On a une incertitude majeure sur le déficit du système de retraite à l'horizon de 2030. Hein. Le scénario le plus pessimiste du corps, qui est utilisé par le gouvernement, nous dit que le déficit du système de retraite sera de 17 ou 18 milliards. Mais ce scénario supposé pessimiste.
C'est 13 milliards et demi, je crois. Hein, voilà. Oui. Et 17 milliards, c'est les économies brutes espérées de la réforme.
Mais ce scénario le plus pessimiste suppose quand même qu'il y a 0,7% par an de gain de productivité.
C'est ça.
Or, il y a l'évolution très désagréable qui se voit dans les dernières années, c'est que le niveau de productivité en France recule. Le niveau de productivité est plus bas de 3% qu'il était en 2019. Et donc, même si on stabilise la productivité dans le futur, on sera très en dessous des gains de productivité supposés par le corps. Supposé que la productivité soit plate à partir de maintenant, on sera 7 points en dessous en 2030 du niveau de productivité supposé par le corps. Donc, en fait, ça inspire beaucoup de prudence sur les scénarios qu'on peut faire de prévision de déficit de système de retraite.
Ouais. Et notamment, ça suppose un taux de chômage plus élevé, si la productivité recule.
En plus, le taux de chômage prévu.
Ah oui, non, pas forcément.
Le taux de chômage prévu par le corps.
C'est pas un problème de chômage. C'est vraiment un problème que, en fait, depuis la loi Balladur, les pensions sont indexées sur l'inflation et qu'il n'y a pas d'ajustement sur la productivité. Mmh. Alors, c'est très bénéfique quand il y a un gain de productivité supérieur à ce qui était attendu, mais par contre, c'est catastrophique quand il y a un gain de productivité qui est plus bas. Parce que vous continuez à payer des pensions sur des productivités qui étaient élevées et que vous basez vos cotisations sur des salaires où la productivité est plus basse. Et ça...
Mais ce que dit Patrick Artus, c'est qu'en 2030, on est à plus de 13 milliards et demi.
Honnêtement, on n'en sait rien. Je veux dire, il y a une énorme incertitude. La productivité, il y a la thèse qu'elle va récupérer le terrain perdu parce que c'est dû à ce que dans un certain nombre d'entreprises, on n'a pas licencié en anticipant une reprise de l'activité. C'est dû au désordre dans les chaînes de valeur, aux problèmes d'approvisionnement, etc. Il y a une partie qui est un tiers qui est due à une baisse de la durée du travail qui est peut-être réversible. Enfin, honnêtement, il faut plaider la modestie. On ne sait pas ce que sera le déficit du système de retraite en 2030. Et donc, une possibilité, ça aurait été de prévoir une clause dite de revoyure, de ne faire que la moitié de la réforme des retraites à l'horizon de 4 ans, et puis de faire 63 ans d'âge légal, la moitié de l'augmentation de l'âge, enfin du nombre de trimestres de cotisation, et puis de faire un point dans 4 ans. Alors ça tombe mal parce que c'est au moment de l'élection présidentielle prochaine, mais de faire un point dans 4 ans sur l'état du système de retraite. Il y aura peut-être de mauvaises nouvelles, il y aura peut-être de bonnes nouvelles. Honnêtement, on n'en sait rien. Et donc, c'était très imprudent, je crois, de se fixer un horizon.
Parler à l'imparfait, comme si des solutions maintenant n'étaient plus envisageables. C'est ça qui
Si vous proposez de revenir à 63 ans d'âge légal et de faire un point dans 3 ans, en 4 ans, est-ce que c'est acceptable par le monde syndical? syndicale, j'ai un doute.
J'ai demandé
un doute aujourd'hui.
Ah, mais parce que
et probablement c'était acceptable par un certain nombre de syndicats dits réformistes il y a six mois. Probablement c'est devenu difficile pour eux de faire marche arrière.
Parce qu'il y a aussi pas mal de spécialistes du secteur qui disent que finalement avec moins de mesures de compensation quand même estimées à 4,8 milliards en 2030 et uniquement à l'accélération de l'agenda Touraine, on arrivait à peu près à un résultat proche.
Mais peut-être, mais on pourrait même envisager peut-être. Faudrait chiffrer précisément, mais l'accélération du passage aux 43 ans de cotisation, mais sans augmentation de l'âge légal, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça perd beaucoup d'argent par rapport à la réforme qui est proposée aujourd'hui? Je pense que ça perd pas beaucoup d'argent, parce que il y a 40% des salariés qui sont protégés par les clauses d'âge, il y a les clauses de pénibilité. Enfin, bon, on n'a pas chiffré assez de scénarios.
On sent, en tout cas, qu'aujourd'hui, c'est plus en 10 ans qu'on passe la pension minimum de 1000 de brut à 1000 de net, qu'on va déminer l'histoire. C'est pas en mettant un nouvel élément pour vraiment parfaitement équilibrer le cas des femmes qui sont arrivées à 62 ans avec leur trimestre du fait de la maternité, mais qui doivent malgré tout attendre 64 ans. Vous voyez une solution, parce que la solution radicale, c'est de dire, bon écoutez, il n'y a plus de borne d'âge. Ou alors, il y a une borne d'âge qui est plus 64, mais 63, clause de revoyure 2027, Xavier Timbaud, ça vous semble...
La clause de revoyure...
Mais alors là, on se couche en race campagne, mais bon...
La clause de revoyure, c'est sûr que c'est une bonne pratique. Enfin, je veux dire, les arguments qu'a donné Patrick Artus sont extrêmement justes. Et puis, accepter cette incertitude, c'est aussi quand même accepter le fait qu'on va prendre le déficit comme un objectif. Et donc, ça peut même un peu de raison dans le système. C'est-à-dire que on pourra accepter qu'il y ait des objectifs en termes de diminution du déficit. Bon, après, je pense qu'on peut lisser un certain nombre de problèmes. C'est vrai que c'est difficile de justifier que les gens qui ont commencé à 20 ans vont cotiser 44 ans, alors que ceux qui ont commencé à 21 ans, 43. C'est vrai que c'est totalement...
Ce truc ne passe pas. Ça, c'est totalement
injustifiable, même si ça ne va pas concerner...
Et puis j'arrive pas à savoir combien de gens sont
concernés. Le blocage sur l'âge légal pour les femmes qui mangent la réduction de trimestre de cotisation de nos enfants, c'est dur à passer quand même.
C'est dur à passer, donc sachant que les femmes...
Oui, mais si vous bougez ça ne se voit pas assez... Okay. La colère sera là, le rejet sera là. Quand on met 1,3 million, 1,4 million dans la rue...
Monsieur Père a l'air d'avoir des techniques de négociation...
Je vais lui demander son avis.
Mais sur le service minimum. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous donner une voie de négociation...
Est-ce que vous envoyez une piste de sortie? Il faut qu'on en sorte, on ne va pas rentrer dans 6 mois de blocage.
Je pense qu'on en a au moins 3 ou 4 des pistes de sortie. Donc c'est 1, la clause de revoyure. 2, cette histoire de 20 ans, 44 années de cotisation.
Égalité
homme-femme, et après on peut jouer sur quelques mesures de compensation malgré tout, parce que
il y en a beaucoup déjà quand même.
Oui, non, mais on peut jouer.
En 2010, c'est une négociation. Pas autant.
C'est une négociation. Si on fait une clause de revoyure avec un objectif de déficit, on peut augmenter un peu des mesures de compensation. Ça justifiera peut-être de faire un peu plus sur les cotisations dans 4 ans. Bon, voilà.
Est-ce que tu sais si on repassait à 62 ans d'âge légal en gardant l'accélération de la réforme Touraine?
À carrément 62 d'âge légal.
Si on ne change pas l'âge légal, mais même si on garde le passage à 43 ans de cotisation plus rapide, qu'est-ce qu'on perd financièrement?
Je n'ai pas le chiffre exact. Je ne suis pas sûr que les scénarios aient été publiés, mais en fait, il semblerait qu'on perde pas mal. Par exemple, j'ai un chiffre qui est assez surprenant, c'est les 44 années de cotisation pour les 20 ans.
C'est 2 milliards.
Oui, c'est 2
milliards d'euros,
c'est
quand même énorme.
J'ai été très frappé. Si on trouvait un accompagnement pour les 20 ans pour qu'ils ne cotisent pas 44, mais 43, 2 milliards de plus.
2 milliards, oui.
C'est colossal, en fait.
C'est assez important.
C'est une année pleine de cotisation et une année moins de retraite.
C'est un jour travaillé en France.
C'est le double effet qui se coule de l'allongement de l'âge de la retraite.
Et j'ai peur qu'on ait un peu un effet comme ça assez important sur l'âge de recul de la retraite.
On marque une pause.
Et c'est pour ça que les services de Bercy ont beaucoup poussé pour que ça soit vraiment inscrit dans...
Ça a été intéressant. On a quand même eu une étude d'impact réalisée notamment avec la CNAV et le gouvernement qui est accroché au texte rendu public au Conseil des ministres. Et on a aussi eu l'avis du Haut Conseil des finances publiques qui, effectivement, Patrick, est très très dubitatif sur le fait que cette réforme des retraites, c'est le Graal du redressement des finances publiques de la France.